Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Cette balado-diffusion est une production de Québec Oiseaux, Gaspard Tanguay-Labrosse au micro. Lorsque je parle au début du mois d'août à mes amis qui font pas d'ornithologie, je passe, et c'est le cas de le dire, pour un oiseau de malheur. Parce que pendant que eux rêvent d'un été éternel, puis oublient qu'ils sont déjà rendus dans le deuxième mois de vacances, pour un ornithologue amateur, le mois d'août, c'est déjà plus un mois d'été. C'est le mois où les premiers signes de l'automne se manifestent et les premiers oiseaux commencent à revenir de l'Arctique. Évidemment, au début août, on parle en particulier des oiseaux de rivage qui sont parmi les premiers à revenir. Et puis pour les plus pressés comme moi, on peut aller à leur rencontre en faisant une partie du chemin qu'ils vont parcourir, en allant vers le nord nous-mêmes et vers l'est. Et j'en ai profité dans ce cas-ci, vous le devinez, pour vous enregistrer une émission à Rivière-Saint-Jean, en Méganie, où j'ai rencontré Christophe Buidin. Son travail depuis quelques années fait la part belle au Bécassou Maubèche. On n'est pas vraiment habitué à voir cet oiseau en grand nombre lorsqu'on remonte le Saint-Laurent vers le sud-ouest, mais les îles Mingan constituent une halte obligatoire pour une partie de la population nord-américaine de ce Bécassou dont les effectifs sont en déclin prononcé. Et j'ai voulu demander à Christophe Buidin pourquoi. Et donc, pour rester dans la thématique des oiseaux de rivage, on a pensé vous offrir une capsule de Marie-Hélène Haché pour parler de la situation d'un limicole beaucoup plus commun chez nous, le pluvier Kildir. Maintenant que le mois d'août tire à sa fin, les nuits fraîches commencent à se pointer le bout du nez, les premiers rhumes, comme vous l'entendez peut-être dans ma voix, se manifestent, et donc je vais vous inviter au début août sur la route de la côte nord. Alors, je rejoins maintenant Christophe Buidin. Christophe, on est en ce moment à Rivière-Saint-Jean, à l'ouest de Mingan. Donc déjà, merci de nous recevoir. Merci d'accepter de faire cette entrevue. Puis bonjour et bienvenue.
Merci.
Christophe, vous êtes ornithologue professionnel. Vous êtes à peu près de tous les projets qui se font sur la côte nord quand il est question d'oiseaux. Enfin, disons la côte nord moyenne. On n'est pas tout à fait la basse côte nord jusqu'à Blanc-Sablon, ni la haute côte nord du côté de Tadoussac. Mais donc, vous êtes à peu près de tous les projets. Puis, je vous retrouve en ce moment. En plus, merci de nous accueillir parce que vous êtes particulièrement occupé. On est au mois d'août. C'est le temps le plus important pour le passage, la migration des limicoles ici à Mingan ou en Minganie. Et puis donc, je vous retrouve pour parler de ce projet-là. Alors, je vais peut-être commencer avec une question un peu plus personnelle. On entend votre accent, bon, c'est un peu cliché, mais donc, vous n'avez pas l'accent du Havre-Saint-Pierre. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à vous installer ici, en Mingan?
Oh, bah, c'est un peu les hasards de la vie, là. Moi, je me suis installé au Québec il y a une trentaine d'années. Au début, j'étais dans la région de Tadoussac. Puis, en fin de compte, je connaissais des gens qui habitaient par ici. Et je suis venu par ici, je me suis trouvé un terrain où j'ai pu me construire, puis j'ai fait ma vie ici. Hein.
Ah oui, donc et puis vous travaillez, comme je disais, vraiment à toutes sortes de projets finalement liés à l'ornithologie sur la Côte-Nord.
Je travaille à contrat, là, pour, souvent avec le regroupement Québec Oiseaux, des universitaires aussi et des chercheurs du Service canadien de la faune sur différents projets. Comme en ce moment, le projet, c'est un projet du Service canadien de la faune, là, où on fait le suivi de la migration des limicoles, les bécassos, les chevaliers, les pluviers, qui passent dans l'archipel de Mingan. L'archipel de Mingan, c'est vraiment un site d'importance là, au niveau du Québec, puis même de l'Est de l'Amérique du Nord. Là. Une diversité, une abondance de bécassos qui arrêtent à l'automne.
Et donc, pouvez-vous me parler un peu de ce que vous faites en ce moment? C'est-à-dire, en quoi ça consiste votre travail, une journée type?
Ça dépend pas mal des oiseaux, de la météo et des marées. Le travail est divisé en deux grosses parties, ou peut-être c'est des inventaires d'oiseaux qu'on fait, et on fait aussi de la capture et du bagage pour suivre les oiseaux. On suit particulièrement le Bécassou Maubèche, qui est une espèce qui est en voie d'extinction en Amérique du Nord. Ça fait qu'on suit cette espèce-là qui niche dans l'Arctique, qui arrête à Mingan l'automne. Puis avec les suivis qu'on fait, les études qu'on a fait les dernières années, on s'est aperçu que les oiseaux qui arrêtent à Mingan, en fin de compte, ils sont là pour 15 jours, 3 semaines, où ils refont leurs réserves. Ils doublent quasiment de poids en 15 jours, 3 semaines. Et là, ils sont capables de faire un vol non-stop de départ de Mingan pour aller jusqu'au nord du Brésil, Guyane française. C'est un vol de 5 à 6 000 km.
Puis ils accomplissent ça en combien de temps à peu près?
En 5-6 jours, à peu près 1 000 km par jour.
Là. Ah oui, mon Dieu, ça, que ça vole quand même vite. Ça demande probablement beaucoup d'énergie aussi.
Oui, c'est ça. Ben, c'est les oiseaux, quand ils arrivent ici, ils font à peu près 110 grammes, ils montent à 180, 190 grammes. Puis quand ils doivent arriver là-bas, ils doivent faire dans les 110 grammes. Là.
Puis comment vous savez ça? Est-ce que c'est parce que vous les capturez plusieurs fois au cours de leur séjour, disons, sur les îles Mingan?
On avait des indices parce qu'on leur met des petits drapeaux avec un code qu'on peut lire juste avec un télescope. Ça, on avait des indices sur... par rapport au retour de ces observations-là. Mais on a posé aussi des appareils qu'on appelle des géolocalisateurs. C'est des appareils qui prennent la position de l'oiseau, sauf qu'il faut recapturer l'oiseau pour être capable de lire les données. Là, on s'est aperçu, on a eu plusieurs oiseaux qui sont passés à Mingan, puis qu'on voyait, ils volent au-dessus de l'Atlantique pour rejoindre là, le nord de l'Amérique du Sud. Mais c'est quand même à 5-6 000 km. Puis ça nous est arrivé... Il commence à le faire en ce moment, dans la période des ouragans. Puis on a vu aussi des oiseaux qui étaient déportés par des ouragans, qui se retrouvaient au milieu de l'Atlantique, et en fin de compte, qui étaient capables de retourner aux Antilles pour prendre un break aux Antilles avant de continuer leur voyage, mais qui n'étaient pas capables d'arriver direct en Amérique du Sud. Là.
Puis donc ça, c'est les géolocalisateurs. Quand vous les avez, vous voyez sur le trajet, finalement, qu'ils ont été déportés, puis vous pouvez calculer, admettons, ah, il y a effectivement un ouragan qui est passé à ce moment-là, donc pour l'éviter, ils sont passés au milieu de l'Atlantique.
Ouais, l'appareil, en fin de compte, ça prend la durée du jour et l'heure du zénith du soleil. Avec ça, on est capable d'avoir une bonne précision quand même. L'appareil ne vous donne pas ces données-là directes. Ça prend vraiment quelqu'un, un ingénieur, pour les analyser. Là. Et fait qu'on est capable de voir les oiseaux à telle date. Ils sont au-dessus de l'Atlantique. Et là, on voit des oiseaux qui sont déportés comme au milieu de l'Atlantique. Puis on peut voir que ça correspond à des périodes d'ouragan ou choses comme ça.
Ah oui, puis est-ce qu'il y en a quand même certains que vous perdez en cours de route, les géolocalisateurs?
Ouais, ben on n'est jamais capable de récupérer tous les appareils, mais ça ne veut pas dire que les oiseaux ne sont pas vivants, mais sauf que ces appareils-là, il faut vraiment qu'on les récupère pour pouvoir avoir les données. Ah oui. Sauf que maintenant, on est passé dans une nouvelle technologie et on commence à être capable de poser des GPS sur les oiseaux qui envoient les données aux satellites. Et là, on a les données... quasiment en direct. Là.
Ah oui, d'accord. Puis, où est-ce que vous les posez sur l'oiseau? Comment ça se passe, admettons, la manipulation et la capture d'un bécasseau mobèche?
Pour la capture, il y a différentes techniques. On a avec des filets projetés, ça, la plupart du temps, on utilise ça. Sur les aires de repos, on place le filet, on sait où les oiseaux vont venir. Sur le site de repos, on place le filet. Quand les oiseaux sont bien placés, bien positionnés, on projette le filet au-dessus d'eux, on les capture. Sinon, on fait aussi de la capture de nuit avec des filets japonais. C'est des filets qui sont peu visibles. Sur fond de forêt, on les voit pas. Là. C'est des filets qui sont souvent utilisés pour capturer les passereaux. Pour les limicoles, comme c'est un milieu ouvert, ils les voient. Et ça fait qu'il faut vraiment travailler de nuit, idéalement quand il y a peu de lune ou un ciel nuageux, parce que même avec une pleine lune, ils sont capables de voir les filets, alors qu'ils sont, pour l'œil humain, ils sont invisibles la nuit. Là.
Puis quel avantage, parce que là, bon, ça, c'est une des choses qui m'a intrigué, parce que quand on s'est parlé au téléphone pour préparer l'entrevue avec votre horaire, vous m'avez dit, on fait de la capture de nuit, donc là, telle journée va être mieux, etc. Alors, qu'est-ce qui vous motive ou pourquoi est-ce que, puisque vous avez la technique avec les grands filets sur les aires de repos, pourquoi est-ce que des fois vous décidez, ah ben là, on va aller faire de la capture de nuit? Parce que ça semble quand même toute une aventure de faire ça là, pour quelqu'un qui n'est pas initié, par exemple, comme moi.
Ça reste que c'est quand même dans les conditions à Mingan, il faut se rendre dans les îles, les oiseaux peuvent se déplacer d'une à une autre. Si on décide de mettre nos filets à une place et que les oiseaux, entre-temps, ont changé d'île, on fait chou blanc. Et vu que les nombres d'oiseaux aussi est diminué, c'est compliqué de les capturer, ça ne marche pas à tous les coups. Si ça marchait tous les coups, ça serait facile.
Ah oui.
Mais comme la dernière nuit où on a été justement pour les bécassos mobèches, on a attrapé des bécassos minuscules et des bécassos copions blancs, mais pas de mobèches. Mais à Brunante, quand même, d'installer les filets, on a vu un faucon pèlerin qui était en chasse. Fait que là, c'était pas très bon signe pour notre nuit. Puis le lendemain matin, on a fait un inventaire pour voir c'est quoi qui se passait. La veille, on avait au moins 70 bécassos maubèches. Et le lendemain matin, il en restait plus que deux. Probablement qu'ils avaient changé d'île à cause du faucon pèlerin.
Oui, c'est pas le faucon pèlerin qui en a mangé 68 pendant la nuit.
Non, mais nous, ce qu'on a vu, le faucon pèlerin n'a pas réussi à capturer la brunante, puis il ne chasse pas la nuit. Là. Mais sauf que comme les oiseaux étaient apeurés, ils ont dû changer de site. Et nous, on avait monté nos filets là. Puis de toute façon, il était trop tard pour qu'on puisse changer. Mais en fin de compte, les oiseaux avaient changé d'île probablement.
Ah oui, donc il doit y avoir tout un travail quand même acharné. Parce que vous dites, on parle de 3 semaines où on fait une fenêtre d'à peu près 3 semaines pour réussir à faire ce travail-là. Puis là, donc, s'ils décident de changer d'une île à l'autre, il faut les retrouver à chaque fois. Ça doit quand même être demander beaucoup de travail en peu de temps. Hein.
Chaque individu reste à peu près 3 semaines, mais il y a un roulement. Parce qu'au tout début de la saison, c'est les oiseaux qui ont manqué leur nidification dans l'Arctique. Quand ils ont manqué leur nidification dans l'Arctique, les oiseaux, bon, ils ne restent pas là, ils commencent leur migration, c'est tout premier. Après ça, c'est les femelles qui arrivent. Les bécassos, c'est un peu comme des poussins de poules. Là. Ils n'ont pas besoin d'être nourris. Ils sont capables de se nourrir tout seuls, sauf qu'ils ont besoin d'un adulte pour les réchauffer.
Ah oui, ok.
Et puis pour prendre soin d'eux dans les premiers temps, s'il y a un prédateur, chose comme ça, pour les prévenir qu'il y a un prédateur qui s'éloigne, qui vont se cacher dans la végétation. Mais ils ne sont pas nourris directement par les parents. Fait que les femelles, une fois que les œufs sont éclos, elles ont fait le plus gros du travail d'avoir pondu les œufs et tout ça, qui demande beaucoup d'énergie. Elles commencent à redescendre vers le sud. Fait qu'on a une première vague jusqu'à la mi-juillet, à la fin juillet, c'est les femelles. Après ça, on voit que le nombre de mâles commence à augmenter jusqu'en août. Puis vers la troisième semaine d'août, là, c'est les juvéniles qui commencent à descendre de l'Arctique. Fait qu'il y a vraiment comme 3 vagues, la femelle, mâle, puis les juvéniles après. Fait que nous, le travail, en fin de compte, il s'échelonne de la mi-juillet jusqu'à la fin octobre.
Ah oui, d'accord, quand même. Donc, vous avez un petit peu de temps pour capturer tout ça. Et donc, le bécassos maubèches, d'après ce que j'ai vu sur les cartes, on parle de l'Arctique. L'Arctique, c'est très vaste. Mais là, on parle vraiment d'un oiseau qui niche très, très loin au nord, non?
Oui, il niche vraiment dans le haut Arctique canadien.
Quel genre d'habitat, par exemple, il a besoin pour nicher?
C'est de la toundra sèche. De ce qu'on sait, des chercheurs qui travaillent dans l'Arctique, là, qu'on trouvait des nids, c'est vraiment une toundra caillouteuse avec un peu de végétation, comme des dryades, des plantes, comme ces genres de milieux caillouteux. C'est des milieux où il y a peu de prédateurs.
Donc, quand ils arrivent ici, donc on parle d'Arctique, on ne parle pas simplement le nord du Québec ou tout juste à la frontière des arbres. Donc, on va vraiment très, très haut. Quand ils arrivent à Mingan, ils ont déjà fait un long trajet depuis l'Arctique.
Oui, ils ont probablement qu'ils peuvent arrêter au nord que Mingan, mais vraiment Mingan et la baie James, là, pour toute la population de l'Est, là, c'est vraiment l'endroit où ils arrêtent et ils font le plein avant de partir pour l'Amérique du Sud. C'est pareil pour les oiseaux qui passent à la baie James. Là. On a peu d'échanges entre les oiseaux qui sont à la baie James et puis les oiseaux de Mingan. En fin de compte, ils font le plein de carburant, de gras. Là. Ils doublent quasiment de poids. Et là, ils sont prêts pour partir pour l'Amérique du Sud. Alors, en dehors de l'Amérique du Sud, ils vont faire des étapes plus courtes. Il y a une bonne partie qui vont aller jusqu'en terre de feu, là, jusqu'à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud, là, en Argentine et au Chili. Là.
Ah oui,
fait qu'ils font, c'est vraiment le voyage arctique, terre de feu, c'est 15 000 km.
Ils font, ah oui, c'est quand même
ils font
assez long.
Ça, c'est ça, ils font ça au printemps et à l'automne. Là.
Oh, c'est impressionnant quand même. Et puis, donc là, on parle des îles Mingan en ce moment, la migration, les limicoles, etc. Il y a beaucoup d'espèces, en fait, de limicoles qui arrêtent à Mingan et même beaucoup d'espèces de bécassos. Là, vous parlez du croupion blanc, mais il y a du bécassos minuscule, il y a du bécassos semi-palmé. Je me demandais, en fait, qu'est-ce qui motive, pourquoi est-ce que c'est particulièrement important le bécassos maubèche? Pourquoi est-ce que c'est cet oiseau-là, ce bécassos-là, plutôt qu'un autre que vous étudiez en priorité en ce moment?
C'est une espèce qui est dans les premières, qui a vraiment eu un déclin prononcé. Déjà, ça fait déjà une vingtaine d'années. Ça fait qu'il y a des chercheurs un peu partout dans l'Est de l'Amérique. On commence aussi à s'inquiéter pour d'autres espèces et il y a des projets sur d'autres espèces. Là, il y a 15 jours, on posait des GPS sur des petits chevaliers pour une équipe de l'Alaska qui suit le petit chevalier parce que lui aussi est en déclin.
puis quelle menace spécifique pèse sur le bec à sumo bêche? Parce que j'ai lu, enfin, qu'on le considérait quasiment comme le porte-étendard chez les limicoles d'une tendance au déclin qui est quasiment généralisée chez tous les oiseaux de rivage. Puis donc, il disait le bec à sumo bêche, c'est comme un peu le porte-étendard, donc la première espèce qui a vraiment sonné l'alarme. Et puis, qu'est-ce que c'est les menaces spécifiques sur ce bec à sumo-là qui justifient ça?
Probablement que le bec à sumo bêche a été le premier, parce que c'est un de ceux qui ont la plus grande migration. Bon, il y en a d'autres qui ont des migrations aussi longues, mais c'est ça. Puis lui était déjà bien suivi dans la baie de Delaware, où il arrête au printemps. C'est ça, au printemps, ces oiseaux arrêtent au mois de mai dans la baie de Delaware, où ils mangent des œufs de limules, les horseshoe crabs.
Oui, qui sont des espèces de crustacés assez impressionnants, puis qui sont d'ailleurs récoltés.
Où on a pu démontrer qu'il y avait une chute des effectifs de bec à sumo bêche qui étaient liés avec la chute des populations de limules. Mais il y a d'autres problèmes aussi, parce qu'il y a d'autres limicoles qui sont aussi en déclin et qui n'utilisent pas cette ressource-là au printemps. Il y a probablement pas mal de difficultés de nidification dans l'Arctique, étant donné les changements climatiques. Là, quand on parle avec des chercheurs qui travaillent dans l'Arctique, chaque année, il y a des événements qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir, des chercheurs qui, ça fait 20 ans qu'ils travaillent dans l'Arctique, puis là, d'un coup, ils ont des pluies abondantes qui déciment des nids de bec à sumo. Certains secteurs, il y a 3 ans, c'était de la neige abondante qu'il y avait au mois de juin qui était encore là, alors que normalement, en Arctique, il neige peu, parce que c'est un climat sec. Mais vu que ça se réchauffe, ça devient plus humide, fait que là, il y a une accumulation de neige, et la neige fond très lentement, fait que les oiseaux arrivent, puis c'est les sites de nidification, normalement, où c'est du caillouteux, où il n'y a quasiment pas de neige, donc ça fond vite, là, il y a beaucoup de neige, fait que les oiseaux sont mal pris. En tout cas, il y a des événements comme ça en Arctique qui nous disent qu'il y a probablement un taux de succès de reproduction qui est moindre que par le passé.
Et en plus, d'ailleurs, j'allais dire, si on regarde dans les cartes, je vous conseille peut-être d'aller voir les cartes où niche le bec à sumo bêche dans l'Arctique. Ils n'ont pas de marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas monter plus au nord. Par exemple, si les conditions sont trop mauvaises, décider simplement de modifier leur site de nidification puis de monter vers le nord, parce qu'ils sont déjà à peu près le plus au nord possible.
Oui, c'est ça. Il y a ils sont dans les dernières îles les plus au nord de l'Arctique. Là. Ils peuvent difficilement aller plus au nord qu'ils ne sont là. Les autres problèmes aussi, c'est sur les sites de
d'hivernation.
D'hivernation et de migration, où il peut y avoir des problèmes de marée rouge. Ça, on a vu en Uruguay il y a une dizaine d'années, où il y a plusieurs milliers de bec à sumo bêche qui sont morts suite à... probablement aussi des... Il y a beaucoup d'agriculture qui est proche des côtes tout le long de l'Amérique du Sud et qui transforme les habitats, soit en apportant les fertilisants ou d'autres choses. Il y a une certaine pollution donc, et ces oiseaux-là sont affectés directement. Il faut savoir que les bec à sumo bêche, ils mangent beaucoup de mollusques comme des bivalves qui sont des filtreurs. Là. Fait que c'est sûr que s'il y a des eaux de mauvaise qualité, les filtreurs accumulent les cochonneries et puis les bec à sumo finissent par manger ça.
Ah oui. Puis sinon, donc vous dites qu'ils font un arrêt à Mingan. J'ai lu donc que toutes les eaux qui entourent l'archipel de Mingan sont désignées ZICO, une zone d'importance pour la conservation des oiseaux, et qu'une des espèces qui avait justifié ça, donc qui est en importance, disons, dans le coin de Mingan, c'est le bec à sumo bêche. Et qu'est-ce qui caractérise les eaux de Mingan qui fait en sorte, ou pourquoi est-ce que les bec à sumo arrêtent ici? Qu'est-ce qui est si exceptionnel ici?
Au contraire de la plupart de la côte nord, qui est une zone granitique avec des battures souvent de sable, l'archipel de Mingan, c'est un archipel calcaire avec des platiers. C'est un plateau qui est recouvert à marée haute et qui se découvre à marée basse, où il y a assez peu d'eau dessus. On parle dans les plus grandes marées... il y a à peu près 1 mètre d'eau, mais en général, c'est plutôt une trentaine de centimètres, 40 centimètres d'eau. Fait que cette eau-là réchauffe, c'est des plateaux qui sont plats, où il y a beaucoup de rigoles, de petites mares. Il suffit de marcher sur les battures rocheuses de Mingan pour s'apercevoir du foisonnement de vie. Là, ça n'a pas rapport avec les
plages.
Des plages.
à perte de vue, qui ont été envahis d'ailleurs cet été par les touristes à cause de la pandémie.
Oui, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. En général, les Bécasses en Mauvais, j'utilise les plages de sable pour manger des petites clames puis des choses comme ça. Mais à Mingan, ils sont plus dans les bigorneaux, les littorines et puis les petites moules. Je me rappelle une des premières observations qu'on avait fait, moi puis mon ami Yann Rochepeau, c'était dans les années 95, où on avait vu des oiseaux baguer à l'île aux perroquets alors qu'on travaillait sur un autre projet. Puis on avait envoyé ça avec des bagues de couleurs. Fait qu'il y avait un code de couleurs sur chaque oiseau. Il y avait 3-4 oiseaux qui étaient bagués comme ça. Fait qu'on avait envoyé ça, les données de bagages, sans le savoir, au bureau à Ottawa. Puis en fin de compte, aux autres, on fait suivre. En fin de compte, ça venait d'une chercheuse en Argentine qui avait bagué ces oiseaux-là.
Ah oui, OK.
Fait que là, elle a commencé à se dire, ah, il y a peut-être un cisne d'importance. C'était ses premiers retours de bac. Dans les années 90, c'était les premiers questions de bagages qui étaient vraiment suivis. Là. Quand elle en a parlé, les gens ont regardé, puis ils ont vu que c'était que l'archipel de Mingan était un archipel calcaire, rocheux. Ils ont dit non, ça ne peut pas être un site d'importance pour le Bécasse Maubèche. Mais en fin de compte, quelques années plus tard, on a fait avec Parc Canada, il y a eu des inventaires de FED, puis on s'est aperçu qu'il y avait des nombres vraiment importants de Bécasse Maubèche.
Puis, j'aimerais peut-être finir, on m'a dit en tout cas qu'il fallait absolument vous poser une question sur un individu spécifique que vous aviez bagué, qui avait une histoire incroyable. Donc, si vous pouvez m'en parler peut-être un petit peu.
Ouais, ben c'est B95 justement qui a été bagué dans ces années-là en Argentine. Il a été bagué justement en 1995 là, par les chercheurs en Argentine. Puis c'est un oiseau qui a été vu un peu partout à Baie de la Houer. On l'a vu plusieurs années à Baie de Mingan. Puis en fin de compte, on l'a vu, il a été suivi pendant une vingtaine d'années. Ah oui. C'était un oiseau qui avait au moins 2 ans quand il était bagué. Ça veut dire qu'il y avait plus de 20 ans. Là. Puis on ne pensait pas que des Bécasses en Mauvais pouvaient vivre aussi vieux. Là. Si on met bout à bout ces trajets de la Terre de Feu aller jusqu'à l'Arctique sur une vingtaine d'années, c'est que cet oiseau-là aurait volé l'équivalent d'aller jusqu'à la Lune. Puis là, il aurait été sur son chemin de retour. Là.
Ah oui, c'est quand même assez... assez long, hein? Oui. C'est impressionnant. C'est plus que ce que la plupart d'entre nous allons faire dans notre vie, hein, en termes de marche, en tout cas.
Ouais, bah 15 000 km aller, puis 30 000 km aller-retour par année. Là. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui fait ça.
Non, je comprends déjà. J'imagine qu'après 20 ans, il devait être un peu fatigué. Bah écoutez, Christophe Hudin, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Et puis, j'espère bien qu'on pourra revenir, en tout cas, dans le coin pour qu'on puisse discuter de d'autres oiseaux de la Côte-Nord avec vous.
Mais pas de problème, ça me fera plaisir.
Je retrouve donc Marie-Hélène Haché. On est à Québec. Marie-Hélène qui nous accueille ici à Beauport. Et puis Marie-Hélène qui est biologiste pour le regroupement Québec Oiseau. Et puis qui est donc la première invitée récurrente de cette balado-diffusion et qui nous a préparé une chronique aujourd'hui sur les limicoles à l'échelle de l'Amérique. Donc on est allé voir Christophe Budin à Mingan. Donc on va vous donner un portrait un peu plus... global de ce qui se passe avec les oiseaux de rivage à l'échelle de l'Amérique du Nord, du Canada, du Québec. On va aussi vous parler peut-être du limicole avec lequel vous êtes les plus familiers, qui est un oiseau qui est très répandu en ce moment dans le sud du Québec, le pluvier kildare. Donc bonjour Marie-Hélène.
Bonjour.
Et puis donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui se passe en ce moment à l'échelle continentale avec les oiseaux de rivage?
Oui, bien en fait, à l'échelle de l'Amérique du Nord, les oiseaux de rivage sont un groupe qui vont pas bien. Ça fait partie, en fait, des 3 groupes là, qui sont en baisse prononcée, avec les hirondelles et avec les oiseaux champêtres. Donc, si on estime seulement pour le Canada, dans les 50 dernières années, les effectifs d'oiseaux de rivage ont baissé de 40 %. Donc, c'est beaucoup. Puis, on voit cette baisse-là aussi au Québec.
Tu me disais, là, quand on a préparé l'entrevue, qu'il y a même une espèce qui a disparu de notre paysage nord-américain dans le dernier siècle, là, ce qui n'est quand même pas très commun. On a seulement une poignée d'espèces qui ont disparu, mais donc il y en a une qui est un oiseau de rivage.
Oui, c'est le courlis esquimau. En fait, il y a plusieurs populations de limicoles qui ont commencé à connaître des baisses à partir des années 1800. Donc, ça fait longtemps, ça remonte à loin.
Ah oui.
Et c'était à cause de la chasse. Donc, le courlis esquimau était beaucoup chassé, puis ses populations ont beaucoup baissé, si bien qu'il est considéré comme éteint aujourd'hui. Présentement, il y a deux espèces, à ma connaissance, qui sont chassées. C'est la bécasse d'Amérique et la bécassine de Wilson. Mais pour l'instant, même si les populations sont pas dans un état... c'est pas des populations qui ont beaucoup augmenté ou qui sont même parfois en diminution. Pour l'instant, là, la chasse est maintenue pour ces deux espèces-là.
De toute façon, j'imagine que c'est pas nécessairement la chasse, en tout cas, disons, en 2020, qui est le facteur principal de déclin de ces oiseaux-là.
Non. Si on les regarde globalement, il y a des facteurs, si on veut, plus larges. Mais en général, on parle de dangers dans les zones pendant la migration. Donc, tout ce qu'on appelle les haltes migratoires. Souvent, il y a beaucoup de dérangements là-dedans, de perte d'habitat. Puis dans la zone d'hivernage aussi, souvent, il y a des problèmes. Il y a la chasse, mais il y a aussi des changements d'habitat importants. Les changements climatiques aussi font partie de ça.
Puis, si on regarde plus spécifiquement au Québec, là, donc quelle est la situation? Bon, je sais que tu as travaillé sur l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec qui parle, disons, des oiseaux qui nichent dans le sud du Québec. Déjà, on a combien d'espèces de limicoles qui nichent dans le territoire qui était couvert par l'Atlas?
Bien, nous, pour l'Atlas, on a couvert 12 espèces, dont deux étaient plus anecdotiques parce qu'on les a trouvées vraiment juste dans une poignée de parcelles. Mais parmi les 12 donc, qu'on a couvert, la situation est quand même assez alarmante dans plusieurs cas parce qu'on a 5 espèces qui sont en diminution sur 12, et on en a 4 autres qui sont en diminution probable. Donc, on voit quand même des bons signes de diminution, mais on ne pouvait pas affirmer hors de tout doute que les populations étaient en diminution.
Donc, on parle de quasiment la totalité des espèces de limicoles qui nichent dans le sud du Québec, là, parce qu'on dit 9 sur 12, dont 2 qui ont, c'est vraiment... En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Là. Je me souviens, le bécassin roux, là, entre autres, qui a été trouvé dans une seule parcelle, juste à la limite là, du territoire couvert.
Et bon, on a une espèce qui n'a pas été retrouvée au deuxième atlas, qui avait été trouvée nicheuse au premier atlas, qui est le pluvier semi-palmé. On sait qu'il y en a encore au Québec, mais entre 2010 et 2014, on n'a pas trouvé aucun indice de nidification de cette espèce-là.
Ah oui. Puis là, donc, en plus, on parle entre les deux atlas, là, parce que là, vous, les diminutions dont vous faites état, ce sont des diminutions que vous pouvez remarquer entre les deux atlas. Et là, on parle de 25 ans, ce qui, d'un point de vue biologique, est vraiment une période très courte. Donc, on se dit, si en 25 ans, on peut remarquer une diminution nette, ça veut dire que la situation est vraiment sérieuse.
Bien, on croit que oui, sauf que c'est quand même assez complexe, les limicoles, parce qu'on sait qu'ils nichent sur des grandes étendues, puis ils nichent souvent dans l'Arctique. Donc, c'est très difficile de les suivre. Puis, un peu comme le bécasson minuscule et le bécassin roux, le pluvier semi-palmé, il est un peu à la limite de son aire, là. Donc, c'est des espèces qui restent quand même difficiles à évaluer.
Donc, c'est pas le territoire de l'Atlas pour le Québec réussissait pas à couvrir l'essentiel de leur aire de nidification là, sur notre territoire. Donc...
Non, mais on soupçonne quand même qu'il y a une contraction là, dans l'Est. Là, donc, que l'espèce serait de moins en moins présente dans l'Est de l'Amérique du Nord.
Alors, ce qu'on a préparé aussi, donc c'est pour vous donner une idée du portrait, parce que là, bon, on parle d'espèces avec lesquels vous n'êtes pas nécessairement familier, des espèces qui passent en migration, qu'on va avoir l'occasion de voir des fois le long du Saint-Laurent lorsqu'elles traversent l'Amérique. Mais pour vous donner une idée, on aimerait ça vous parler peut-être aussi de la situation du pluvier Kildir, parce que le pluvier Kildir est lui aussi en déclin, alors qu'on pourrait avoir l'impression que ça reste une espèce très abondante, ou enfin... qu'on rencontre souvent lorsqu'on fait de l'ornithologie, disons, dans le sud du Québec, à peu près partout.
Oui, effectivement, c'est une espèce qui reste quand même abondante, qui a été trouvée dans plusieurs parcelles. On parle d'environ 1000 parcelles dans le premier et dans le deuxième atlas. Par contre, on se rend compte qu'au niveau de son aire de répartition, donc le pluvier Kildir, c'est une espèce qui niche beaucoup en zone agricole, puis on s'est rendu compte qu'il y a quand même eu une contraction de son aire de nidification, là, si on compare le premier et le deuxième atlas.
Ça s'est fait dans quelle région, cette contraction-là?
C'est beaucoup, je dirais, en zone périphérique des régions traditionnellement agricoles, comme en périphérie de l'Abitibi, puis surtout les Laurentides méridionales, donc tout ce qui est un peu au nord des basses-terres du Saint-Laurent, dans le coin de Montréal. Et on croit que une des causes qui serait possible, c'est le fait qu'il y a certaines terres agricoles qui ont été abandonnées il y a plusieurs dizaines d'années, puis que là, maintenant, ils sont rendus à un stade où c'est plus propice pour le pluvier Kildir. Donc, il y a des arbustes qui ont poussé, il y a des arbres qui ont poussé, puis le pluvier Kildir, lui, a besoin de milieux ouverts pour nicher.
Oui, peux-tu nous parler un peu justement des conditions nécessaires à la nidification du pluvier, qu'il dire? Comment ça, où est-ce qu'il pond, comment il s'arrange, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il niche?
Bien, le pluvier, qu'il dire, il niche au sol. Donc, c'est vraiment simple. Souvent, on va le trouver au sol, dans des petites roches ou sur des herbacées. Puis, on le voit, quand on le voit, souvent, c'est parce qu'il niche près des habitations, près des fermes. Puis, d'ailleurs, ça, c'est un problème pour lui parce que souvent, ses nids sont piétinés, soit par le bétail, soit par la machinerie. Mais donc, en gros, ça lui prend pas grand-chose pour nicher. Là. Je dirais, quand on est dans le sud du Québec, en période de nidification, ce qui est plus dangereux, c'est vraiment comme la destruction du nid par des causes humaines.
Je sais que dans l'Atlas, vous parlez beaucoup, justement, là, on parlait des oiseaux champêtres aussi. Là, le pluvier kildir est comme une espèce d'intermédiaire limicole oiseau champêtre. Vous parlez beaucoup justement de la modification du paysage agricole dans le sud du Québec, entre autres le fait qu'on ait changé de la culture maraîchère pour de la monoculture de maïs, de soya. Est-ce que le champ de maïs, le champ de soya, c'est un habitat propice pour la nidification du pluvier kildir ou pas vraiment?
Ce qu'on a remarqué surtout pour le sud du Québec, en fait, c'est la transformation des pâturages en culture annuelle. Donc, maraîcher, ça rentre dans les cultures annuelles aussi. Donc, c'est tout ce qu'on doit ressemer ou replanter à chaque année. Alors, le pluvier kildir niche dans les pâturages, mais selon ce que je sais, je pense qu'il pourrait quand même s'accommoder dans une certaine mesure là, de cultures moins durables. Mais ça, il faudrait peut-être fouiller. Là.
Ah bon, ça sera pour un autre, pour un autre épisode. Sinon, est-ce qu'on a une idée, le pluvier kildir, à l'échelle de l'Amérique du Nord ou disons en général, parce que là, on couvre un territoire très spécifique au Québec?
À l'échelle du Canada, on sait qu'il y a quand même eu une diminution de la moitié pendant la période qui a été couverte par l'Atlas, là, donc entre 1990 et 2014. Donc, c'est beaucoup. Puis au Québec, si on regarde juste en termes du nombre de parcelles, je disais tout à l'heure là, qu'il a été vu dans plusieurs parcelles au premier, puis à peu près le même nombre au deuxième. Mais si on regarde la proportion de toutes les parcelles visitées, là, il y a vraiment une différence parce qu'au premier atlas, il a été détecté dans la moitié des parcelles, puis au deuxième atlas, il a été détecté seulement dans 30 % des parcelles. Donc, il y a plusieurs parcelles où il a disparu, finalement, même s'il y a eu quand même une certaine densification dans les basses terres.
Tout
alentour, oui, de l'effort. Puis aussi, il y a eu les zones peuplées ont été mieux couvertes. Mais quand même, quand on regarde la périphérie, là, il y a beaucoup de parcelles qui se sont éteintes, si on veut, là, donc où l'espèce n'a pas pu être vue.
Et donc, même si les ornithologues ont un contact fréquent, répété, avec un oiseau comme le pluvier kildir, on ne peut pas supposer là, que ça va nécessairement continuer comme ça pendant des années, puisque la tendance est à la baisse.
Bien, pour l'instant, ça reste un oiseau qui est quand même abondant. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas de crainte pour le pluvier kildir. Mais quand même, si en même temps, on se dit que c'est une espèce très commune puis qu'on a pu déceler des changements quand même importants, ça reste quand même inquiétant. Donc, en résumé, j'ai pas de crainte pour l'espèce comme telle, mais il y a un petit drapeau rouge qui s'élève, qui dit « Oh, attention, même le pluvier kildir est touché. »
Puis sinon, en migration, le pluvier kildir, il fréquente quel genre d'habitat?
Il fréquente beaucoup des milieux humides. C'est ça qui est intéressant parce que le pluvier kildir, c'est vraiment un oiseau champêtre, là, donc il va nicher dans les champs. Mais en migration, il fait pas mal comme toutes les autres limicoles. Donc, il va fréquenter les plages, les platières de vases qui sont découvertes là, à marée basse ou à marée montante.
Puis donc, finalement, en migration, le pluvier kildir peut être affecté par le même genre de problème qui affecte tous les autres limicoles qui migrent, en fin de compte.
Oui, exactement. On peut supposer qu'il fait face aux mêmes menaces parce qu'il fréquente le même genre d'habitat. Là. Donc, les changements climatiques, le dérangement sur les plages, peut-être même la chasse, je ne sais pas. Là.
Ou la hausse du niveau de la mer.
Exactement.
Marie-Hélène, merci beaucoup. Et puis, on espère se retrouver bientôt pour un autre épisode.
Merci.
J'en profite pour vous rappeler que l'Assemblée générale annuelle de Québec Oiseaux aura lieu le 19 septembre et que les membres doivent s'inscrire en ligne pour participer dans la section « Calendrier des événements ». On va faire une petite demande aussi aux gens qui écoutent la balado-diffusion. N'hésitez pas, si vous la téléchargez sur iTunes ou sur un autre programme, de nous noter, évidemment, idéalement, 5 étoiles sur 5. Ça aide beaucoup la balado-diffusion à gagner en visibilité sur les algorithmes. Après avoir eu une migration printanière, donc un peu perturbée, j'espère vraiment que tout le monde pourra profiter pleinement d'une migration automnale sous le signe de la quasi-normalité, avec 3 ou 4 beaux mois d'ornithologie qui arrivent. Merci et à la prochaine!